VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le président français Emmanuel Macron est attendu ce vendredi en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés pour se battre contre les groupes djihadistes dans la région. Après ses précédents voyages cette année au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, cette courte visite d'une vingtaine d'heures à Niamey à l'approche de la fête de Noël témoigne de la priorité que le président Macron donne à la stabilisation de l'Afrique de l'Ouest. J'y suis très présent parce qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action au Sahel, avait souligné le chef de l'État français dimanche dernier. Après son accueil en fin d'après-midi par le président nigérien Mahamadou Issoufou, Emmanuel Macron se rendra directement à l'aéroport de Niamey, où est implantée une vaste base aérienne de l'armée française. Avec 500 hommes, des avions de chasse Mirage 2000, des appareils de transport et des drones, cette base est le cœur de Barkhane, la plus importante opération militaire extérieure menée actuellement par la France, qui couvre 5 pays, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie. Le président Macron effectue sa visite en compagnie de la ministre française des Armées, Florence Parly. Fête de Noël oblige, cap sur le Togo, où des habitants de la capitale Lomé disent ne pas avoir le cœur à la fête. Face à une activité commerciale en berne, les commerçants se plaignent de la mévente de leurs produits. Reportage de notre correspondante au Togo, Kay Lawson.
Nous sommes dans la plus grande zone commerciale de Lomé, précisément au marché d'Agbadahonou, une place aménagée pour accueillir les commerçants suite à l'incendie du bâtiment principal du grand marché de Lomé en janvier 2013. Sur place, les visages se crispent, comme si c'était passé le mot.
C'est bien le marché.
En quoi les commerçants interrogent.
Quand on vient au marché, on installe les choses. Il n'y a pas le marché, on n'arrive pas à vendre. C'est la fête qui vient comme ça, mais rien ne va du tout. Il y a des gens qui ne vont pas en Chine. Quand les gens vont en Chine et autres, là, ça va. Mais maintenant, tout le monde s'est caché. Tu vas prendre l'argent pour aller en Chine, payer des choses, venir s'installer dans la boutique. Il n'y a pas le marché. Comment on va faire?
Les étrangers ne viennent pas. Il n'y a pas l'argent, donc il n'y a pas de vente. Rien ne marche. Depuis le matin qu'on est venu, on n'a rien vendu, mais nous vendons des habits des enfants. En ce temps-ci, les années passées, ça ne se passe pas comme ça. Les années passées, on disait qu'il n'y a pas l'argent, mais cette année-là, c'est pire.
Les activités ne marchent pas comme avant. On ne vend pas au marché, mais par la grâce de Dieu, ça va.
Franchement, commercial, ça ne va pas. Ça ne va pas, rien ne marche. Les gens ne viennent pas, nous on sort, mais les gens ne viennent pas.
Pourtant, ces commerçants ont garni leurs étalages et boutiques attendant les clients quasiment absents. La crise politique que traverse le pays depuis 4 mois, on serait pour quelque chose.
À cause des manifestations, on ne vend pas, c'est trop. Donc il faut que le dialogue soit vite fait.
S'il y a marche, rien ne marche. Donc on sait que si la marche s'arrête aujourd'hui, on peut aussi vendre un peu et puis ça va aussi marcher pour nous aussi. En tant que citoyen, on se voit qu'il se comprennent puis que les marches s'arrêtent et puis on avance.
Il faut que le président parle pour calmer le pays, quoi. Il n'a qu'à parler aux gens et puis on va voir comment l'activité va se passer. On est fatigué.
Il faut qu'il résolve ce problème. Il faut qu'il s'assoie pour discuter, pour que le pays avance. Il faut qu'il trouve des solutions.
Un tour en pile, le constat est tout autre. Lomé a fait sa toilette et ses boulevards et avenues sont parés de leurs plus beaux atouts pour annoncer des fêtes que certains Togolais n'attendent pas forcément.
Non, on ne sent pas la fête. La situation du pays est tellement que partout dans la ville, on ne sent pas d'engouement pour la fête. Moi, j'apprends même que le jour de la fête, même des gens vont marcher.
Pour le moment, on ne fait aucun programme. Avec les problèmes dans le pays, là, vraiment, je n'ai aucun programme pour mes enfants.
Les fêtes de fin d'année se préparent. Mais cette année, nous avons des difficultés qui font que il est très difficile de préparer les fêtes puisque l'on n'a pas la tête à la fête. Donc, de mon côté, je prépare ça de manière morose. Tout ce que j'aurai à faire, c'est peut-être sortir avec les amis ce jour-là, juste pour ne pas rester à la maison, quoi. C'est un programme par défaut, quoi.
La fête dans notre famille, bon, on prépare ça très bien. Sinon, on rend grâce à Dieu. Les enfants, on a payé les tenues pour eux, ils vont bien s'habiller.
Il n'y a pas l'argent, donc on est là, juste à présent, rien. On est à l'église, c'est tout, comme d'habitude. On va préparer la pâte à des mains. On mange bien. On boit de l'eau glacée. On ne sent pas.
Certaines boutiques ne se sont pas donné la peine de décorer leurs vitrines, comme si pour exprimer leur indifférence face à des fêtes caractérisées cette année par la mévente. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, la défense de l'ex-ministre Hubert Houlaye, qui comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan pour complicité d'assassinat de 7 soldats de l'ONU et de 8 civils en 2012, a estimé que toute l'accusation n'était qu'une pure fabrication de la DST, les services secrets ivoiriens. C'est ce qu'a affirmé hier, au troisième jour du jugement, maître Rodrigue Dadjé, en soulignant qu'il s'agit d'un procès politique. Interrogé par l'avocat général, l'unique témoin présent sur les cinq cités, Serge Brou, militaire de 44 ans en détention préventive dans une autre affaire, a nié à la barre avoir incriminé M. Houlaye dans ses déclarations à la police. Gabon, le Fonds monétaire international a annoncé l'octroi de 101 millions de dollars au pays dans le cadre d'un prêt triennal consenti en juin. Le FMI anticipe un rebond de l'économie gabonaise en 2018 grâce notamment au redressement des cours du pétrole. La situation économique au Gabon demeure toutefois délicate, mais certains signes laissent entrevoir un retournement de la tendance, estime le Fonds monétaire international dans un communiqué. Conflit au Soudan du Sud, une délégation du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui vient de passer 12 jours dans le pays se dit aujourd'hui profondément perturbée par les atrocités commises par toutes les parties en guerre dans le pays et réclame que les coupables soient traduits en justice. Cette déclaration intervient au lendemain de la signature à Addis Abeba en Éthiopie d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles. Un accord qui est perçu comme un préalable indispensable à la relance du processus de paix. Claire Morin-Gibault.
Le texte officiel du cessez-le-feu a été signé lors d'une cérémonie au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, après 4 jours de négociations. C'est à minuit et une minute, le 24 décembre, que toutes les parties doivent cesser toute action militaire et opération hostile. L'accord prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, et ce pour garantir la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Le texte a été signé par le gouvernement du président Salva Kiir, par le principal mouvement d'opposition de l'ancien vice-président Riek Machar et par 6 autres groupes armés. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est voulu optimiste. « C'est un premier pas encourageant, vous redonnez une lueur d'espoir à votre peuple », a-t-il déclaré. Depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, les cessez-le-feu au Soudan du Sud n'ont jamais été respectés.
Vote aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur un projet de résolution pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord. Présenté par les États-Unis, ce projet de résolution vise entre autres à interdire l'exportation vers la Corée du Nord de produits pétroliers raffinés, Eddie Sango.
Pyongyang pourra être privé des 90% des produits pétroliers raffinés importés selon les textes. Et tous les Nord-Coréens travaillant à l'étranger devront retourner chez eux, rapatriés dans les 12 mois. La mesure concernera des dizaines de milliers de Nord-Coréens envoyés en Russie et en Chine afin de récupérer des devises pour leur pays. Ils travaillent selon les textes dans des conditions proches de l'esclavage. Les projets limitent par ailleurs les livraisons de brut à 4 millions de barils par an. Les pays souhaitant fournir la Corée du Nord en pétrole devraient demander la permission auprès de l'ONU. Les importations nord-coréennes de produits pétroliers raffinés, y compris les diesels et les kérosènes, seraient plafonnées à 500 000 barils l'an prochain. Et les pays fournisseurs seraient tenus d'informer l'ONU. La liste des produits nord-coréens interdits d'exportation s'allonge avec l'ajout des produits alimentaires, d'équipements industriels et électriques. En plus, 19 responsables nord-coréens travaillant dans les secteurs bancaires sont ajoutés sur la liste des sanctionnés, y compris les ministres des forces armées chargés de la logistique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le Congrès américain à majorité républicaine a adopté jeudi des financements temporaires pour l'État fédéral, repoussant au 19 janvier la prochaine date butoir budgétaire et invitant ainsi toute paralysie des administrations. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.